Le mois de janvier, c'est le mois des bonnes résolutions, vous nous le disiez Mathieu, mais nous sommes nombreux à constater aussi que changer nos habitudes ne semble pas si simple.
Et pour cause, hein, car oui, c'est bien le propre des habitudes d'avoir justement la vie dure. Mais en même temps, c'est aussi leur avantage, car si on parvient à mettre en place une bonne habitude, on va diminuer le coût justement de ce comportement en termes d'effort et de volonté. C'est bien le côté positif des habitudes, ça ne nous coûte pas grand-chose. Alors sur la façon idéale de changer nos habitudes, d'abandonner les mauvaises pour des bonnes, eh bien votre moteur de recherche favori risque bien de vous servir des tonnes d'articles de développement personnel sur la bonne façon de hacker votre cerveau pour faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Avec toujours, il faut bien le dire, cette injonction à se réaliser et à devenir la meilleure version de nous-mêmes, etc. Mais ceci dit, on apprend dans cette littérature des choses quand même intéressantes, pour autant qu'elles soient vraies. Notamment, qu'il faudrait en moyenne 66 jours pour instaurer une nouvelle habitude. Je trouvais ça quand même long, mais enfin bon. On apprend également qu'une habitude se met toujours en place autour d'un déclencheur et que celui-ci est hyper important. Par exemple, si vous souhaitez faire votre séance d'exercice tous les jours, il peut être pertinent de déterminer un déclencheur non négociable qui doit entraîner la séance. Par exemple, dès que je me lève, je fais 10 pompes. Ou chaque fois que je vais prendre une douche, juste avant, je fais 10 pompes.
Ça, c'est le déclencheur.
C'est le déclencheur, voilà.
Ok.
En fait, ça va permettre d'éviter de délibérer avec soi-même sur quand je le fais, est-ce que c'est le bon moment, etc. Et aussi, ça va diminuer le temps nécessaire à la prise de décision. Donc, ça va minimiser l'effort, quoi. On peut donc très bien agir selon une habitude, même si celle-ci est en conflit avec nos intentions actuelles. Il est également conseillé de minimiser l'énergie d'activation de ce comportement que vous souhaitez adopter en décidant à l'avance d'un maximum de choses, par exemple la durée de votre exercice, l'endroit, même votre tenue, ou encore même la playlist que vous allez écouter en le faisant. De cette façon, les entraves potentielles à l'action sont fortement diminuées, vous vous simplifiez en fait la mise en route de votre comportement.
Oui, plus besoin de tergiverser au moment où on doit le faire. Ok, très bien Mathieu, mais est-ce que tout ça est bien philosophique?
En effet, hein, ce n'est pas certain, car si les philosophes ont beaucoup discuté de la notion d'habitude, ce n'était pas pour en faire un manuel pour devenir l'individu winner et performant que nous vend le développement personnel. Chez les philosophes, il y a d'abord cette idée qu'on retrouve chez Aristote que ce sont les habitudes qui font la valeur d'un homme. Comme il le dit, je cite, « Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. » Fin de citation.
Ah, c'est bien ça.
C'est pas mal, hein. L'idée, c'est que, au-delà des actes héroïques que nous pourrions commettre ici et là, être vertueux, c'est en fait l'être par habitude, au sens où c'est l'être dans notre version de base de nous-mêmes. C'est quand la vertu est devenue en fait notre habitude, oui. Montaigne était d'ailleurs du même avis lorsqu'il disait « La vertu n'est pas bonté et saillie de l'âme, mais résolue et constante habitude. » Une autre idée des philosophes, c'est que l'habitude permet l'oubli de l'apprentissage, comme le mentionne Paul Ricoeur. Un nageur, par exemple, a bien dû apprendre un jour la technique de nage, geste par geste, en décomposant le mouvement. Mais cette technique, une fois devenue une habitude, eh bien, va provoquer l'oubli de tous ces détails. Ça va diminuer en fait la conscience de ce que nous faisons. De le faire avec habitude, un peu comme lorsqu'on conduit, on ne sait plus très bien les gestes qu'on fait. Nous ne pensons plus à la façon dont nous nageons, dont nous respirons ou dont nous conduisons. Hein. Et si cela libère bien de l'attention pour autre chose, cela donne lieu tout de même à une forme d'oubli du présent. Dans la mesure où en pratiquant l'habitude, en fait, on ne pense plus à ce qu'on fait. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la méditation à pleine conscience. C'est de nous reconnecter justement au présent de notre corps. Enfin, si l'habitude a des vertus pour les philosophes nous mettent également en garde contre le danger de l'automatisme. L'automatisme qui diminuerait tout simplement notre capacité à interroger, à mettre en question ce que nous faisons et à se permettre en fait de mettre à jour notre logiciel moral. Donc, prenons de bonnes habitudes, mais surtout n'oublions pas de les questionner de temps à autre.
Eh bien, merci, Mathieu Pelletier, d'être vertueux une fois en convoquant la presse ce jour-là.
Voilà,
il faut l'être chaque jour.
Ouais.
Très bien. C'est...